Infomag vous est présenté par la Société Lefroy et Coca-Cola. Suivez toute leur actualité sur leur page Facebook et Instagram.
Il est 11h30, Infomag avec Jean-François Baudin.
Téhéran riposte mollement à l'attaque américaine sur ses sites nucléaires. 6 missiles ont touché une base américaine au Qatar qui avait été évacuée. De nombreuses voix prédisent la chute du régime iranien. C'est le cas du fils du dernier Shah d'Iran qui se dit prêt à reprendre le pouvoir lors d'une conférence de presse à Paris. En Calédonie, la marche des volontaires progresse. Partie le 19 mai de Prony, les marcheurs du RIMAP entament ce matin depuis tout haut leur avant-dernière étape. 3 étudiantes de l'UNC remportent un prestigieux concours d'éloquence internationale. Elles sont allées conquérir leur titre aux Pays-Bas, vous les entendrez. Et puis en sport, le PSG se qualifie pour les 8e de finale de la Coupe du Monde des clubs. Les Parisiens ont battu Seattle ce matin 2-0. En tennis, nous ferons le point sur le tournoi de qualification à Wimbledon. Bonjour à tous, bienvenue dans ce journal qui se poursuivra par le magazine Citoyen comme tous les mardis. Bonjour Nicolas Legrand.
Bonjour Jean-François.
Il sera question cette semaine du classement Atout France mis en place par la province Sud.
Oui, il s'agit Atout France de l'agence de promotion touristique de France qui décerne aux établissements hôteliers des étoiles, gage de leur qualité d'accueil, de confort et de service. Mais alors, quels sont les avantages pour les hôtels décorés? Comment obtenir son classement? Quels critères faut-il remplir? Eh bien, nous en parlerons tout à l'heure à la fin de votre journal dans notre magazine Citoyen. Nous recevrons Flore Roudeau, chef de service du tourisme à la DDET de la province Sud, qui est compétente pour le classement Atout France. Patrick Cardin, le propriétaire du Lagon, qui a quant à lui reçu ses 4 étoiles la semaine dernière, tout comme Lancelot Payotin, qui est le directeur général du Beau Rivage, qui a reçu 3 étoiles. Et enfin, Lorena Touyada, qui sera présente en tant que responsable d'exploitation du Gondwana, un hôtel qui est inscrit ce coup-ci pour la demande de classement 2026.
L'actualité à l'étranger à la une aujourd'hui. L'Iran a en effet riposté au lendemain de l'attaque américaine sur ses sites nucléaires. On est loin d'une attaque d'importance. 6 missiles iraniens ont touché une base aérienne américaine au Qatar sans faire de victimes. Antoine Bienvaux pour Europe 1.
L'Iran confirme ce soir que 6 de ces missiles ont atteint la base américaine d'Al-Udeid au Qatar, le plus grand site militaire américain du Moyen-Orient. Aucune victime n'est toutefois à déplorer selon les États-Unis qui avaient évacué cette base militaire il y a quelques jours. Les services de sécurité américains ont d'ailleurs, selon toute vraisemblance, été informés de cette attaque imminente puisque l'espace aérien qatari avait été fermé hier de façon préventive. Plusieurs autres missiles iraniens lancés vers cette même bases ont pu être interceptées par le Qatar qui dénonce une violation de sa souveraineté. Doha dit d'ailleurs ce soir ne pas exclure de répondre à cette attaque de Téhéran sur son sol. Selon l'agence de presse Axios, en plus des missiles lancés vers le Qatar, au moins un autre projectile aurait été tiré vers une deuxième base américaine en Irak, mais cette information est démentie ce soir par les autorités irakiennes. Reste désormais à savoir quelle sera la réponse des États-Unis et de Donald Trump. Selon la Maison Blanche, le président américain serait toujours intéressé par une solution diplomatique avec l'Iran, mais aucune déclaration officielle n'a cependant pour l'instant été faite par Washington près de 3 heures après cette attaque de Téhéran. Emmanuel Macron a de son côté réagi sur les réseaux sociaux. Le président français appelle à la fin de la spirale du chaos, je le cite, en apportant au passage son soutien au Qatar visé par les tirs.
Le président français qui reste sur une ligne peu partagée par les autres dirigeants occidentaux, non au programme nucléaire iranien, mais non à la chute des mollahs. Le chef de l'État s'est exprimé lors d'un déplacement en Norvège.
Il faut le dire tel que c'est, il n'y a pas de légalité à ces frappes, même si la France partage l'objectif de ne pas voir l'Iran se doter de l'arme nucléaire. Nous considérons avec constance, depuis le début, que c'est par la voie diplomatique et technique que cela peut se faire. Je le dis parce que j'entends beaucoup de commentateurs qui, au fond, vous renvoient à une forme d'inefficacité quand vous défendez la voie diplomatique sur ces sujets. Mais quand on a de la constance, on peut prétendre avoir de l'efficacité. Je crois à la souveraineté des peuples et à l'intégrité territoriale. Il n'y a pas de double standard.
Malgré cette position d'Emmanuel Macron, de nombreuses voix s'élèvent pour un changement de régime en Iran. Et parmi ces voix, celle de Reza Pahlavi, le prince héritier, fils du dernier Shah d'Iran. Il a tenu une conférence de presse à Paris. Il réclame la démission du guide suprême.
J'ai un message direct pour Ali Khamenei, démissionnez. Et si vous le faites, vous bénéficierez d'un procès équitable et d'une procédure régulière. C'est plus que ce que vous n'avez jamais accordé à aucun Iranien.
Reza Pahlavi est d'autre part certain que le régime iranien est sur le point de tomber.
Aujourd'hui, il est plus clair que jamais que la République islamique s'effondre. Des informations dignes de foi indiquent que la famille d'Ali Khamenei prépare son départ d'Iran. Le régime est à bout de souffle.
Le prince héritier d'Iran promet, s'il revient au pouvoir, un avenir démocratique et un Iran fondé sur trois piliers. Le respect des libertés individuelles, l'égalité entre tous les citoyens et la séparation de la religion et de l'État. Et si l'Iran a frappé une installation américaine au Qatar, Israël a continué de son côté ses bombardements sur Téhéran, notamment la prison d'Evin, où sont retenus les derniers prisonniers otages français Cécile Kohler et Jacques Paris. Le ministre français des Affaires étrangères a confirmé qu'ils n'ont pas été blessés. En métropole, c'est la réunion de l'ultime chance. Les partenaires sociaux tiennent la dernière réunion du conclave sur les retraites pour tenter de trouver des points de convergence, ce qui n'est toujours pas le cas. Et l'avenir du Premier ministre pourrait bien dépendre de l'issue des discussions. La gauche brandit une nouvelle fois en effet la menace de la censure. Arthur Delaborde.
Le compte à rebours a commencé pour François Bayrou. Le risque de censure est réel. La France insoumise veut dégainer une motion dès cette semaine, quoi qu'il arrive sur les retraites. Mais seule la gauche ne peut rien, d'autant que les socialistes sont divisés entre affirmer son opposition à François Bayrou ou jouer la carte de la stabilité. Le PS hésite, même si certains députés sont prêts à franchir le pas. À droite, c'est le Rassemblement national qui agite la menace. Pas vraiment sur les retraites, mais sur l'énergie. Le moratoire sur l'éolien et le solaire voté la semaine dernière à l'Assemblée est un camouflet pour le gouvernement. Et si François Bayrou n'en tient pas compte, le RN promet un vote sanction. Alors le scénario est là, presque écrit, une majorité introuvable, des oppositions prêtes à en découdre et un Premier ministre de plus en plus isolé. La censure peut tomber dans les prochaines semaines sans attendre le budget de l'automne. Et pour François Bayrou, ce serait une sortie contrainte qu'il espère transformer en acte de courage avant peut-être de mieux revenir en 2027.
Et puis toujours en métropole, un élu roué de coups au soir de la fête de la musique. Les faits se sont déroulés vers 23h à Villeneuve-sur-Lot lorsque le député LR Guillaume Lepers a tenté de s'interposer dans une bagarre. Il a raconté sa mésaventure au micro de nos confrères d'Europe 1.
Une bagarre démarrait et donc on est intervenu pour essayer de séparer tout le monde. On pensait avoir réussi et quelques secondes après, les choses se sont envenimées quelques mètres plus loin où là, un jeune était pris à partie par trois autres. Donc je me suis interposé en précisant que j'étais élu de la République député, donc je pensais que ça allait calmer un peu les choses. Et donc je pensais avoir extrait une personne pour calmer le jeu et en fait, une autre personne m'a sauté dessus pour me frapper. Bon, ça se finit pas très bien pour moi. Ma bagarre, du coup, s'est arrêtée assez rapidement dès lors que les gens constatent que c'était le député qui était à terre. Alors, certains me le reprochent en disant un élu ne devrait pas intervenir. Ben, un élu, c'est un citoyen comme tout le monde. Dès lors qu'il voit un de ses concitoyens se faire agresser, il intervient.
Résultat, de nombreux hématomes, 8 points de suture à l'arcade et 10 jours d'ITT pour le député LR qui a porté plainte. 3 individus ont été interpellés et seront jugés en comparution immédiate dans 3 jours. Il est 11h38, la première pause de ce journal. On se retrouve pour évoquer l'actualité en Calédonie.
Toute l'info en 3 lettres, RRB.
Ah, ces assurances, j'y comprends pas grand-chose.
C'est pourtant simple, fais comme moi.
Va chez AXA, agence Ixon à Magenta à côté de Mazda. Pour la voiture, le voyage, la maison, la retraite, le placement et la protection de toute la famille, leurs conseils sont simples, clairs et efficaces.
AXA, agence Ixon, votre assureur de proximité.
Numéro de RIAS, 170 059.
RRB, nos efforts valent bien un geste fort. Soutenez-nous, faites un don. Par chèque, virement ou en espèces aux 4 rues de Sébastopol. Toutes les infos sur rrb.nc ou sur la page Facebook. RRB, les fréquences aux couleurs de la France.
RRB, 11h, 13h, Infomag, Jean-François Bodin.
Manuel Valls évoque la réunion sur la Nouvelle-Calédonie la semaine prochaine à Paris lors d'une conférence de presse sur la présentation de la loi pour la refondation de Mayotte qui est en cours d'adoption par le Parlement. Le ministre des Outre-mer a détaillé le contenu de ce projet de loi avant de se livrer à un bilan de son action rue Oudinot. Il a dit quelques mots sur chacune des collectivités d'outre-mer en terminant par la Nouvelle-Calédonie.
En Nouvelle-Calédonie, j'ai recréé les conditions d'un dialogue indispensable, un accord pour sortir l'archipel de la crise. Cet accord reste possible et nous comptons beaucoup sur les discussions que nous aurons la semaine prochaine avec le président de la République, puis ensuite avec l'ensemble des acteurs politiques de ce territoire.
Quelques mots seulement avant que Manuel Valls ne conclue cette conférence de presse par sa vision des Outre-mer et son souhait d'une démétropolisation.
Au fond, c'est sans doute le plus important. au cours des 6 derniers mois, j'ai voulu initier la construction d'un nouveau rapport entre l'Hexagone et les Outre-mer. Ces territoires nous font rayonner, mais je souhaite aussi qu'ils puissent rayonner par eux-mêmes et pour eux-mêmes dans chacun des espaces régionaux, des océans dans lesquels ils se trouvent. C'est pourquoi j'ai indiqué vouloir engager un processus de démétropolisation de nos rapports. Les questions de mémoire, de culture, mais le rapport aussi entre l'État et ces territoires doivent être profondément revus. Je n'ignore surtout pas qu'il reste beaucoup à faire. Et cette mission passionnante qui est la mienne, j'ai évidemment le souhait de la prolonger. Mais là, ça ne dépend pas que de moi.
Volonté de prolonger sa mission, mais ça ne dépend pas que de lui. Une petite phrase énigmatique de la part de Manuel Valls cette nuit pour nous en conférence de presse. Sur le territoire, quelques points chauds persistent encore après l'incendie des docks de Biscochoc à Ducos. Les pompiers sont toujours sur place. Même si le feu est maîtrisé depuis jeudi dernier, des fumerolles persistent sous des décombres. Hier, une société de démolition est venue en renfort des soldats du feu pour ouvrir la voie vers des lieux difficiles à atteindre. Un peu de fumée se dégage encore des docks, mais il n'y a pas de risque pour la santé. 3000 mètres carrés ont été incendiés.
Radio Rythme Bleu, opinion.
C'est l'heure de votre rendez-vous SMS sur Radio Rythme Bleu avec notre question du jour. L'entreprise Biscochoc était-elle directement visée, selon vous, dans l'incendie de son dock? Ou s'agit-il de la manifestation d'une délinquance ordinaire telle que nous la constatons depuis plusieurs mois? Si vous pensez que l'entreprise Biscochoc est visée directement, vous tapez 1. Si vous pensez que c'est un acte de délinquance ordinaire, vous tapez 2. Et vous envoyez votre réponse au 3146. Et puis la réponse à notre question d'hier, 68% des auditeurs de Radio Rythme Bleu qui se sont exprimés par SMS pensent que les interventions d'Israël et des États-Unis vont provoquer un changement de régime en Iran. Ils sont 32% à penser que ce ne sera pas le cas. L'actualité dans la région avec un renforcement des relations franco-fidjiennes en matière de sécurité régionale. Cette coopération porte sur la lutte contre les stupéfiants et sur la criminalité transnationale. Les explications de Jean-Pierre Zajac.
Cet accord de coopération accrue a été scellé à Suva lors des discussions qui y ont eu lieu entre l'ambassadrice de France aux îles Fidji, Julie Le Saos, et le ministre fidjien de l'Intérieur, Ioane Naiva Lurua. Au terme de ces entretiens, il a été conclu que la France apportera son soutien aux îles Fidji en proposant notamment des formations adaptées aux priorités de la police fidjienne et en contribuant aussi aux efforts de surveillance du trafic des stupéfiants. L'accent a également été mis sur l'amélioration de la surveillance maritime de l'archipel et sur les capacités du bureau fidjien de lutte contre les stupéfiants. Cette rencontre souligne le renforcement des liens entre nos deux pays en matière de sécurité régionale, a indiqué le ministre fidjien de l'Intérieur à l'issue des discussions. À Sydney, Jean-Pierre Zajac, RRB.
Retour en Calédonie avec la 15e et avant-dernière étape de la marche des volontaires du RIMAPNC qui a débuté ce matin. Le trinôme sélectionné doit relier Touo à Yengen. Une cérémonie coutumière de passation s'est déroulée avant de pénétrer dans l'air Otmawap. Un défi sportif avec des étapes précédentes parfois compliquées mais toujours facilitées par un paysage à couper le souffle. C'est ce qu'explique le capitaine Florian Rousseau du RIMAPNC. C'est l'organisateur de cette marche des volontaires.
On a eu l'étape de l'ascension du Mont Humboldt qui a été effectivement un vrai défi sportif, mais aussi toute la traversée du GR Nord qui vient d'avoir lieu, où les éléments climatiques, en plus du terrain, n'ont pas forcément aidé nos marcheurs durant leur progression, mais malgré tout, ces derniers s'en sont très bien sortis et sont arrivés à bon port. Nos marcheurs découvrent de nouveaux paysages auxquels ils ne sont pas forcément habitués, le RIMAP étant principalement sur la province sud, donc réparti entre Ploumes, Nouméa et Nandaï. Ils découvrent des nouveaux paysages au gré de leur progression.
Les marcheurs du RIMAP sont partis de Prony le 19 mai dernier et termineront le 16e tronçon le 1er juillet à Koumak après avoir parcouru 740 km. Une cérémonie se déroulera à cette occasion en présence notamment des maires des communes, du haut-commissaire Jacques Billan, des autorités coutumières et militaires. terre. En bref, le projet de construction d'une centrale de stockage d'électricité en Nouvelle-Calédonie se concrétise. Lors du salon Vivatech, Christopher Gigès, membre du gouvernement en charge de l'économie et de l'énergie, a participé à la finalisation du financement de ce projet porté par la société AQO. Près de 9 milliards de francs seront investis par un opérateur national de premier plan dans le secteur de l'énergie, avec le soutien de grands partenaires financiers comme la BPI France, l'Agence française de développement et la Caisse d'épargne Île-de-France, ce qui pourrait représenter plus de 30 emplois directs pendant la phase de construction et 450 millions de francs de droits de douane générés pour le budget du territoire. Et puis stop aux arnaques, l'IOM, l'Institut d'émission d'outre-mer, et l'IEDOM, l'Institut d'émission des départements d'outre-mer, lancent une campagne pour lutter contre les arnaques bancaires, Léana Colombo.
Trois schémas de fraude sont particulièrement ciblés. Les faux conseillers bancaires qui vous contactent par téléphone en prétextant une opération suspecte sur votre compte et qui demandent de leur transmettre les codes de votre carte. La fraude au crédit sans condition auprès d'un établissement bancaire via des publicités alléchantes. Or, une fois les frais de dossier versés, les escrocs encaissent l'argent et disparaissent. Et enfin, la fraude au chèque avec une personne qui remplit le chèque à votre place et qui peut donc modifier le montant. Les instituts d'outre-mer mettent en garde contre ces pratiques. La campagne Stop aux arnaques sera notamment visible sur les réseaux sociaux.
Il est 11h46, une nouvelle pause dans ce journal. On se retrouve pour parler de cette victoire prestigieuse pour trois étudiantes de l'UNC qui ont remporté un concours d'éloquence aux Pays-Bas.
RRB, 11h-13h, Infomag, Jean-François Bodin.
La ville de Nouméa fête son anniversaire ce mercredi 25 juin à partir de 16h sur le terrain municipal de Magenta. Au programme, des animations seront proposées de 16h à 20h avec un spectacle de magie à 16h30 et la distribution des lanternes commencera à 19h pour un envol à 20h. Stands de restauration et manèges pour vos enfants seront également de la partie. Plus d'infos sur nouméa.nc ou sur la page Facebook Nouméa Ma Ville. Venez savourer ce moment de festivité.
Ville de Nouméa, partageons l'événement.
Mais chérie, t'as pas fait à manger ?
Non.
Oh, mais t'avais dit que tu t'en occupais.
J'ai pas cuisiné, mais j'ai prévu. Je suis passé à la Maison du Pain.
Ah, leur vrai fait salade. J'adore.
Et maintenant, ils font les plats du jour, toute la semaine. Pratique pour le midi et même pour le dîner si t'as pas envie de cuisiner.
Retrouvez toutes nos actualités sur la page Facebook du Complexe Le 4, situé au 186 rue Jacquier-Caoué. Le 4, faites vos courses autrement.
Savez-vous que la pièce qui consomme le plus d'énergie est la cuisine ? Pensez à couper l'alimentation de la plaque électrique ou de votre four quelques minutes avant la fin de cuisson, car la chaleur résiduelle permet de terminer la cuisson ou de garder les aliments au chaud.
Retrouvez toutes les astuces éco-conso sur le site EEC. Sur RRB, il n'y a pas de jour sans EEC.
Construisons notre pays. Économisons l'énergie.
Toute l'info en trois lettres. RRB.
La suite d'Infomag, on retrouve Jean-François Bonin.
Oui, pour parler de cette victoire prestigieuse pour trois étudiantes de l'UNC, elles ont remporté un concours d'éloquence interuniversité à La Haye, aux Pays-Bas, Nicolas Legrand.
Oui, et auparavant, elles avaient participé à 5 confrontations en visio. Il s'agissait d'une joute verbale en français sur un thème défini une semaine avant. Chaque équipe préparait donc ses arguments à l'avance, pour et contre, et apprenait au dernier moment quelle position elle allait défendre. Anaïs Hott est étudiante en master de droit et souhaite être avocate. Alors forcément, ce concours a été pour elle une opportunité de progresser dans ses prises de parole afin de convaincre.
Ça a été hyper enrichissant. On a eu 6 matchs au total. On recevait donc les sujets 7 jours à l'avance, on les préparait et on rédigeait donc notre introduction. On préparait tous nos arguments, donc à savoir que du coup, on essayait de ratisser très large en se disant donc bon, si j'ai tel argument, qu'est-ce que l'équipe adverse va pouvoir dire ? On peut aborder le sujet sous un angle économique, social, culturel, vraiment toutes les thématiques. Et donc on rédigeait des sortes de parades avec, et après on se re-questionnait, donc qu'est-ce qu'il dirait ? Donc on rédigeait une nouvelle parade et ensuite on rédigeait également notre conclusion. Et à chaque fois, c'était extrêmement stimulant. On a rencontré beaucoup d'universités de tous les horizons et ça a été des débats passionnants à chaque fois.
Et après leur belle performance en visio, les trois étudiantes calédoniennes se sont donc envolées pour les Pays-Bas afin de disputer la grande finale en présentiel contre l'université de Poitiers. Soraya Kelfi est étudiante en licence et c'était la première fois qu'elle prenait la parole en public lors de cette finale à La Haye.
Le dernier thème pour la finale, c'était est-ce qu'il faut faire de l'art traditionnel un levier diplomatique et économique international ? Donc on s'est disputé sur ça, donc chacun son tour. C'était plus dynamique, on va dire, parce que là, on avait vraiment les personnes en face, donc il fallait avoir un dialogue fluide. C'était presque comme une partie de ping-pong, hein. Il fallait se renvoyer la balle à chaque fois, argument, contre-argument, et voilà. Au final, on a gagné, on est fiers.
Et tout au long de cette aventure, les trois étudiantes ont été coachées. Et en plus du titre par équipe, Asia Benaraj-Testa a également reçu le prix de la meilleure oratrice. Et elle souhaite maintenant que d'autres étudiants de l'UNC leur emboîtent le pas.
C'est une opportunité avant tout de dingue. On n'imagine pas pour la première participation de l'Université de la Nouvelle-Calédonie, car c'est important de le relever. Ça fait 5 ans maintenant que le concours existe. L'Université de la Polynésie française y a déjà participé. C'est réellement une très très grande fierté pour la première participation de l'UNC de remporter la victoire. On espère que ça sera entre guillemets porteur et que ça donnera envie aux prochaines équipes pour les prochaines auditions de se porter aussi loin, parce que c'est possible. Ce n'est pas parce qu'on est à l'autre bout du Pacifique qu'on n'a pas pu rivaliser avec des universités bien plus connues ou qualifiées de prestigieuses. On a un sacré concentré de talent en Nouvelle-Calédonie et ça fait très plaisir de le valoriser.
Et leur performance lors de la finale a été diffusée en direct sur YouTube. Les trois étudiantes ont ensuite été reçues avec les honneurs à l'ambassade de France aux Pays-Bas pour la remise des prix.
Devenir le Uber calédonien, c'est l'ambition affichée par Zigo NC, la nouvelle application de VTC locale 100% numérique. Pour accompagner son lancement, une matinée d'information a été organisée à la FOL qui a permis de réunir les acteurs de la mobilité du territoire déjà en activité ou en projet et recruter de nouveaux chauffeurs. Cette plateforme vise à répondre à une demande croissante dans un secteur jugé dégradé. Haute Forest est responsable des relations publiques chez Zigo NC et elle détaille cette application.
On est plus sur rendre accessibles les choses, autant pour les chauffeurs que pour les transporter, enfin nos futurs utilisateurs de l'application. On a une position actuelle, on commande notre destination, on clique sur commander, on inscrit notre mode de paiement, espèce ou carte bancaire, et on commande un chauffeur et celui-ci nous répond ou nous répond pas. Mais en tout cas, il y a quelqu'un qui est censé arriver dans les 3 à 5 minutes. Ça fait partie de la vision Zigo, c'est d'offrir aux Calédoniens, aux Nouméens, mais aussi aux croisiéristes, aux touristes, un service de déplacement qui soit disponible à toute heure et de façon sécure.
Une vingtaine de personnes a fait le déplacement, des curieux, des chauffeurs en activité, mais aussi des Calédoniens en reconversion, tous intéressés par cette nouvelle opportunité.
On nous a présenté un produit qui peut être un bon moyen de démarrer. Et comme je démarre, j'envisage peut-être de rejoindre leur équipe.
Ce qui m'intéresse, c'est devenir auto-entrepreneur. Je suis salarié aujourd'hui, mais j'ai envie de changer. Cette journée est plus axée sur le transport. Comme c'est un besoin réel, je pense qu'il y a quelque chose à faire là-dedans.
J'ai une société de transport. Le fait que ça calcule tout seul le prix de la course, que la question de confiance entre le client et le chauffeur, qu'on puisse choisir son chauffeur, mais c'est quelque chose qui manquait sur le territoire. Vraiment, on voit que ça s'est démocratisé dans d'autres pays et ici, on était demandeurs de ce genre d'application.
Et pour devenir chauffeur sur cette application, plusieurs conditions sont à remplir. Avoir son permis de conduire depuis 3 ans, suivre une formation de 5 jours à la Chambre des métiers et de l'artisanat pour obtenir le statut d'auto-entrepreneur en transport public particulier. Il faut ensuite s'enregistrer auprès de la DI3T qui délivre l'agrément TRP nécessaire pour exercer cette activité. Ensemble, donnons des ailes à nos rêves. C'est le thème du projet Rêve de gosse que porte le Rotary Club de Nouméa Wentoro. Le but est de rassembler des enfants dits ordinaires et ceux extraordinaires, c'est-à-dire porteurs de handicap, pour favoriser l'inclusion et l'acceptation de la différence. Une centaine d'enfants est regroupée dans les locaux de l'Association calédonienne des handicapés à Nouville aujourd'hui, Charlotte Coulson.
C'est à l'origine un projet créé par l'association métropolitaine Rêve de gosse et qui est relayé pour la première fois sur le territoire. Le but est simple, transformer les regards sur le handicap. Le Rotary Club Nouméa Wentoro tente de lever les appréhensions que les enfants peuvent avoir en organisant des rencontres. 102 enfants étaient regroupés aujourd'hui à l'ACH, 2 classes de CM2, 2 classes pour l'inclusion scolaire, dite CLIS, et plusieurs jeunes d'associations spécialisées. Le tout coordonné par Manuel Berthier, membre du Rotary Club Nouméa Wentoro.
C'est la première journée remarquable, puisque au préalable, les enfants se sont rencontrés déjà par petits groupes. Là, c'est la première journée où vraiment 100% des enfants inscrits dans l'action se rencontrent. Et la journée, c'est le partage des actions et des travaux autour du projet pédagogique. Et aussi, beaucoup de classes et d'associations ont organisé des activités et des jeux là, auxquels les enfants vont tous participer par groupe, les enfants ordinaires et extraordinaires. Pour les enfants ordinaires, c'est l'acceptation de la différence. Et on voit que ça marche. Certains, c'est la 3e fois qu'ils se rencontrent. Et vraiment, les barrières tombent. Il y a vraiment un lien qui se crée. Et pour les enfants extraordinaires, pour eux, c'est génial puisqu'ils profitent de moments qu'ils n'ont malheureusement pas forcément la chance de connaître, de faire des activités avec d'autres enfants, avec des choses encadrées et ambitieuses en plus.
Et au programme de cette journée dite remarquable à Nouville, des chants, de la peinture, des chamboultous ou même une course de fauteuil roulant. Autant d'activités qui rapprochent les enfants, qu'ils soient porteurs de handicap ou non.
Moi, c'est Nicolas et je suis autiste.
Qu'est-ce que tu es en train de faire ?
De la peinture, des plumes.
Alors, quelle couleur tu choisis pour faire tes dessins ?
Le vert.
Comment tu trouves les activités ici ? T'es plutôt content ? T'aimes bien ?
Tellement bien, trop bien.
Je découvre. Enfin, au début, j'avais peur des handicapés, mais maintenant, ça va. Enfin, je n'ai plus peur. Quoi.
Qu'est-ce qui pouvait faire peur au début ?
Bah, de voir qu'ils étaient différents que nous, qu'ils pouvaient faire des trucs que nous, on pouvait pas faire. Ça faisait un peu peur, mais maintenant, ça va. On n'a plus peur maintenant. On ne veut pas parler avec eux, donc c'est un peu dur, des fois.
Les jeux, c'est peut-être une autre manière de communiquer aussi
Oui, je pense, parce qu'ils peuvent s'amuser avec nous. Comme ça, ça fait des différences, mais qui sont bien.
Et la prochaine journée se déroulera le 26 août à la CH de Nouville. Le projet culminera le 7 octobre à l'aérodrome de Magenta, où les enfants réaliseront un vol en avion.
Il est 11h56. Il nous reste à parler sport et nous verrons notamment que le PSG s'est qualifié pour les huitièmes de finale de la Coupe du Monde des clubs aux États-Unis.
RRB, pour être au cœur de l'actualité.
Des conseils concernant les placements, l'épargne, les SCPI ou encore la retraite ? Caplif, votre expert calédonien en gestion de patrimoine, vous accompagne avec des solutions personnalisées. Caplif, depuis 35 ans à vos côtés. Et ce n'est que le début. Contactez Caplif au 28 30 00. RIAS 170 052, ORIAS 13103.
Chez Maison Thirier, le duo moule frites est de retour. Pour l'achat d'un kilo de moule, profitez du kilo de frites pour 100 francs de plus. Soit le tout à 1090 francs seulement. Offre valable jusqu'au 31 juillet dans vos 4 magasins. À Pogoti, Magenta, Faubourg et Vata. Maison Thirier, goûtez, ça change du surgelé.
Attention, plus que quelques jours avant le tirage au sort du million en bons d'achat sur RRB. N'attendez pas le dernier moment pour vous inscrire. Envoyez maintenant RRB au 40-20. Il n'y a pas de liste préétablie. Le ou la gagnante décidera comment dépenser son million. Et puis, il y a toujours 100 000 francs à gagner en bons d'achat. Si vous êtes le 1500e SMS, pile sur le compteur. Alors n'hésitez plus. Envoyez maintenant RRB au 40-20. Chaque SMS compte pour le tirage du million le 4 juillet à 14h. 371 francs par SMS. Règlement du jeu disponible à l'accueil de la radio. Saisissez votre chance. Envoyez RRB au 40-20.
Tout le sport en trois lettres. RRB.
L'actualité sportive, on retrouve Jean-François Baudin.
Et on va parler d'abord de football. Ce n'était qu'une formalité pour le PSG qui a décroché son billet pour les huitièmes de finale de la Coupe du Monde des clubs 2025, Léana.
Et oui, malgré une défaite surprise face à Botafogo 1-0 la semaine passée, le Paris Saint-Germain a non seulement décroché son billet pour les huitièmes de finale, mais il a aussi assuré la première place du groupe B après son succès ce matin face aux Seattle Sounders 2-0. Gvara et Hakimi sont les buteurs parisiens du jour. Achraf Hakimi qui s'est dit confiant pour la suite de la compétition et qui en a profité pour évoquer le Ballon d'Or.
Je suis en pleine forme et je me sens bien. Je fais une saison, je pense que si les gens pensent que je suis candidat pour le Ballon d'Or, je suis très content, ça fait plaisir, c'est un honneur pour moi et je pense de continuer. Mon objectif est d'aider à l'équipe, de donner tout pour mon équipe ou pour mon pays de Maroc. Et après, c'est vous qui décidez ce qui les gagne, les choses individuelles, que moi, le plus important, c'est le titre collectif.
Reste maintenant à savoir qui seront les adversaires des Parisiens pour ces huitièmes de finale. Le PSG affrontera le deuxième du groupe A dont l'identité dépend de l'issue des deux derniers matchs de cette poule. Les champions d'Europe peuvent être opposés au FC Porto, à Palmeiras, à Al Ahly et surtout à l'Inter Miami de Lionel Messi. Les matchs se jouent actuellement.
En tennis, on joue les qualifications au tournoi de Wimbledon et c'est plutôt une bonne journée passée par les tricolores.
16 Français étaient engagés lors de ce premier tour du troisième tournoi du Grand Chelem de la saison de tennis. 9 joueurs ont validé leur ticket pour la prochaine phase. Vanache, Pavlovitch, Manarino, Blanchet, Droguet, Jacquet, Cazot, Bouquier et Royer. Fin de parcours en revanche pour l'Estienne, Maillot, Emery, Atman, Grenier, Escoffier et Herbert. Je rappelle qu'Arthur Fils, touché au dos, avait déclaré forfait un peu plus tôt. Et ce soir, ce sont les femmes qui joueront. On retrouvera notamment Loïse Boisson qui n'a pas rejoué depuis sa demi-finale à Roland-Garros, perdue contre, je le rappelle, l'américaine Coco Gauff. Elle affrontera la canadienne Kerstin Branstin à 21h, heure de Nouméa.
Et puis on termine avec le basket et la NBA. Oklahoma City a foudroyé les Indiana Pacers et remporte son premier titre.
La franchise menée par la star canadienne Shai Gilgeous-Alexander l'a emporté au bout du 7e match contre les Indiana Pacers. Score final de cette rencontre 103 à 91. Le Thunder, héritier des Seattle Supersonics, champion en 1979, décroche ainsi son premier titre depuis son installation en Oklahoma, c'est en 2008. La franchise avait atteint une première fois la finale en 2012 avec notamment un certain Kevin Durant, mais avait été dominé par Miami et LeBron James. 13 ans plus tard, Oklahoma City s'impose avec dans son effectif un petit Frenchie, Ousmane Dieng, 22 ans. Même s'il a peu joué lors de cette finale, le jeune ailier savoure sa victoire et peut se vanter de devenir le 7e champion français NBA.
Il est midi, c'est la fin de ce journal.